Alors, ça va tout le monde? Yes, vous avez profité du soleil? Ouais, je vois qu'il y a quelques brûlures, ceux qui n'ont pas fait attention hier. C'est bien, ça fait du bien d'avoir du beau temps. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très pratique, de très concret à partager avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignante. J'enseigne à la fac et à l'école d'ingénieurs. Et je passe mes journées avec les étudiants en sciences et maths et ingénierie. Et j'ai fait un constat que je veux partager avec vous ce matin parce que ça touche le cœur de ce que je veux, ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je connais mes étudiants, surtout ceux dont je suis l'enseignante depuis quelques années. Je connais leurs espoirs pour l'avenir. Je connais leurs compétences, ou pas, en anglais. Je connais leurs points faibles, je connais leurs points forts. Et quand je planifie mes cours, c'est fait en tenant compte de toutes ces choses-là. Parce que l'objectif, c'est de les aider à réussir. Et pourtant, et c'est marrant, quand je leur donne un travail à faire, que ce soit, ça peut être un travail de groupe, ça peut être un travail en individuel. Il y a toujours un étudiant qui me pose la question. C'est là que, peu importe le travail, peu importe comment on va faire le travail. Et cette question, ce n'est jamais comment est-ce que ce travail va m'aider à améliorer ma compréhension de l'anglais ou qu'est-ce que ce travail va apporter à ma vie professionnelle plus tard. S'il y a des enseignants dans la salle, Nadia, j'imagine que tu connais bien la question. La question, c'est toujours, madame, c'est noté? C'est toujours la première question, peu importe ce qu'on fait. Et je pense que c'est vrai du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et mes étudiants, parfois, ils ont 22 ans, 23 ans, 25 ans. Ça ne change pas. Tout le monde veut savoir si c'est noté. Il y a des étudiants dans la salle? Il y a quelques étudiants? Oui, ça vous intéresse, les notes? Oui, ça apporte quelque chose. Alors, nous sommes créés avec un besoin de comprendre la valeur de ce que nous faisons. Dieu nous a créés comme ça. Et c'est pour devenir ou pour rester motivé et engagé. Et le problème, c'est que le péché nous a déformés. Et Dieu, depuis notre retour à lui, depuis le moment où on dit à Dieu, non, je veux que Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, Dieu prend notre formation en main. Parce que tout ce qui a été déformé, il faut transformer. Il faut que ça soit remis comme il faut. Et bien sûr, Dieu, il est parfaitement conscient de ce besoin que nous avons de comprendre la valeur de ce que nous faisons. Parce que c'est lui qui nous a créés, donc c'est logique. Et nous trouvons dans les Écritures beaucoup d'exemples, de références à cette idée de récompense. De récompense. Pour les actes accomplis. Dieu nous dit, il dit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment dans l'ensemble du parcours biblique, qu'il récompensera chacun selon ses actes. Ça veut dire que ce que tu fais compte aux yeux de Dieu, parce qu'il y a une récompense. Et il y a certaines choses qui sont soulignées pour être récompensées par Dieu. On trouve ça en Jérémie, on trouve ça dans les psaumes, on trouve ça en Romains, et surtout, on le voit dans l'enseignement de Jésus. Et on va découvrir un tout petit peu ce que Jésus a à dire par rapport à la récompense. Et je pense que Dieu nous parle de récompense. Comme je dis à mes étudiants, que je vais vous motiver à vous engager dans ce qui est important. En le signalant clairement que cet acte-là, c'est récompensé. Parce que comme ça, ce n'est pas ambigu. Vous savez que c'est une bonne chose à faire. Si Dieu dit c'est récompensé, on n'a pas besoin de se poser 1000 questions pour savoir est-ce que je dois le faire ou pas. C'est très clair. Et donc, en fait, on va faire une petite liste dans un instant, mais Dieu est en train de dire, ces choses-là sont notées. D'accord? Donc, pour tous les étudiants de la vie dans la salle, ce que je vais vous dire maintenant, Dieu dit, c'est noté. Donc, comme ça, vous avez votre liste. Donc, je vais pas tout citer parce que la liste est très longue, mais je vais juste citer quelques-uns. Supporter les insultes et l'exclusion à cause de ta foi en Jésus. Dieu dit, c'est noté. Okay? Rester intègre, juste et honnête. Dieu dit, c'est noté. Faire du bien à nos ennemis, à ceux qui sont contre nous. Dieu dit, c'est noté. Il y a une récompense pour ça. Persévérer dans notre service, malgré les éventuelles difficultés. C'est noté. Faire un travail de qualité pour ton employeur. Ça, c'est noté. Je ne sais pas si vous savez ça, mais ce que vous faites pour votre employeur, Dieu dit, je le récompense. Quand vous travaillez bien, moi, je vois, c'est pas votre fiche de paye. Ça, c'est ce qui est dû. Mais si vous faites bien votre travail pour votre employeur, moi, je le récompense. Parce que c'est comme si vous travaillez pour moi. OK? Donc ça, c'est noté. Restez accroché à la vérité, à la bonne doctrine, malgré la pression culturelle de faire autrement. Dieu dit, c'est noté. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Être généreux avec votre argent, quand vous voyez les besoins. Le fait d'être libéral, c'est noté. Dieu dit, ça, c'est important pour moi. Alors, forcément, on n'a pas le temps de parler de toutes ces choses-là. Et j'ai choisi deux que je n'ai pas déjà citées. C'est la surprise. Mais j'ai choisi deux. On va explorer un peu plus ce qui est noté par Dieu. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour nos vies? Qu'est-ce que ça change? Et avant de préciser ces deux domaines, on va juste lire un verset qui donne un peu le cadre de ces deux sujets qu'on va toucher ensemble. Donc c'est en Hébreux 11, verset 6, c'est un verset qu'on connaît très très bien. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Okay? Je pense qu'on a, je ne sais pas combien de temps, combien de fois on a entendu ce verset-là, mais c'est un verset qu'on connaît. Mais souvent on parle de ce verset dans le contexte de la foi. Mais je veux juste qu'on regarde le dernier mot. Cherche. Dieu existe, il récompense ceux qui le cherchent. Ma question c'est, comment est-ce qu'on cherche Dieu? Parce que c'est beau, comme oui, je vais chercher Dieu, mais concrètement, comment est-ce que tu cherches quelqu'un que tu ne vois pas? Est-ce que je vais dans le couloir, Dieu, tu es là? Dieu, il est là, il est omniprésent, ça veut dire qu'il est là quelque part. Mais comment est-ce que tu cherches quelqu'un qui n'est pas visible? Okay? Et les deux choses qu'on va toucher ensemble, ce matin, donne au moins une partie de réponse à cette question-là. Comment est-ce qu'on cherche Dieu? Parce que s'il y a une récompense, ça m'intéresse de savoir comment chercher Dieu. C'est important. Alors, chercher. Première chose, on va prendre deux enseignements de Jésus pour voir nos deux sujets. Et le premier, si Abigail, si tu peux afficher Matthieu 6, 5, 6. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux, les hypocrites, on voit dans quelques versions. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alors, je pense qu'on connaît ce passage. On va sauter au passage suivant. C'est dans le même enseignement de Jésus. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans nos périodes de jeûne qu'on fait parfois à l'église où tu proposes un beignet à quelqu'un. « Oh non, je ne peux pas. » Parce que je jeûne. On peut simplement dire, non merci, c'est bon. Mais voilà, on veut vraiment insister sur le fait que... parce qu'on est fiers, parce qu'on jeûne et c'est compliqué et c'est difficile, d'accord? Alors Dieu dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ok? Il ne faut pas changer de visage pour que tout le monde voit que tu jeûnes. Je vous le dis, c'est la vérité. Ces personnes-là qui font ça, ils ont déjà leur récompense parce que tout le monde t'admire parce que tu jeûnes. D'accord? Mais il n'y a pas de récompense de Dieu pour ça. Si on peut continuer? Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes, mais ton Père le verra. Lui qui est là, dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans un passage qui a un rapport avec le fait de chercher Dieu? Je pense que ce sujet-là, c'est assez logique quelque part, parce qu'on dit que c'est dans la prière, c'est dans le jeûne qu'on cherche, on cherche Dieu. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu dans ce contexte-là? Chercher Dieu, c'est d'abord reconnaître notre besoin de lui. C'est la première chose qu'on démontre lorsqu'on prie, c'est qu'on a besoin de lui. On n'est pas assez, on n'est pas suffisant nous-mêmes. Parce que si on est suffisant, bah pourquoi prier? Tyler Staton, c'est un Américain qui a beaucoup écrit sur la prière. Et il a dit quelque chose de très intéressant et franchement, pour moi, ça m'a fait un petit claque. Donc, je vais partager ça avec vous. Il dit que notre vie de prière est souvent le reflet de notre avis sur nos propres compétences. Je vais juste répéter ça. Il dit que notre vie de prière est souvent le reflet de notre avis sur nos propres compétences et capacités. S'il y a un domaine de notre vie qui ne figure jamais dans nos prières, ou très rarement, c'est souvent parce que nous pensons que nous gérons ça très bien tout seul. Je suis autonome. J'ai le talent, j'ai les capacités, j'ai les connaissances, j'ai assez d'expérience. Voilà, ça va, j'ai pas besoin de Dieu. De consulter Dieu, de demander l'aide de Dieu dans ce domaine-là, parce que ça va, je gère. Et j'avais entendu ça, et puis, juste parce que ça m'intéressait comme idée, j'ai fait le bilan de ma vie de prière. Et vous savez quoi? J'étais choquée. Quand j'ai vraiment analysé tous les domaines de ma vie, et j'ai dit, mince, en fait, je ne prie jamais pour ça. Ou je prie très rarement pour ça. Parce que, effectivement, je pense que je gère. Et ça peut aller pendant un certain temps, mais c'est très dangereux à long terme de ne pas soumettre l'ensemble de notre vie. Et ça peut être le côté familial, le côté professionnel, le côté service dans l'église, le côté relationnel avec des amis, le côté spirituel, le côté avenir, le côté gestion du passé et les choses qui nous embêtent. Etc. Donc, c'est vraiment très large. Et j'aimerais vous encourager à faire la même chose. Pensez à votre... Pas maintenant. J'aimerais encore que vous m'écoutiez un tout petit peu. Mais c'est très intéressant de le faire. Et de vous poser la question, en fait. Est-ce qu'il y a les parties de ma vie que je n'apporte pas ça dans le lieu secret devant Dieu? Parce qu'en fait, je pense que je gère. Et il est temps de mettre ça sous la main de Dieu. en disant, Dieu, je pense que je gère, mais en fait, il faut que je reconnaisse mon impuissance et mes manques de moyens. Même si je pense que je gère, en fait, non. Non, parce que c'est toi le Tout-Puissant. C'est toi qui as des choses à dire, qui as des choses à inspirer dans tous ces domaines de ma vie, si je veux vraiment grandir avec toi. Et donc, personnellement, moi, je compte changer ça. J'ai déjà une note mentale des choses où il faut que, faut que j'améliore. Mais c'est quelque chose que Dieu dit, c'est récompensé. Quand tu fais ça, quand tu apportes des choses de ta vie dans la prière, c'est récompensé. Parce que c'est une façon de montrer notre humilité devant Dieu. C'est une reconnaissance de notre impuissance et de tout-puissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu est élevé à sa propre place dans nos vies. Et c'est pour ça, je crois, et il y a peut-être plein d'autres raisons aussi, que Dieu dit que je récompense la prière. Parce que finalement, on est en train de se mettre en bonne position, par bonne posture par rapport à Dieu. C'est d'accord, je te mets, Seigneur, de toute ma vie. Et donc, nous sommes en train de mettre notre confiance en lui. Et ça, c'est une façon de chercher Dieu. On cherche Dieu en l'impliquant dans tous les domaines de notre vie. Et Dieu aime se faire trouver par nous. Donc, on peut lui faire confiance que lorsqu'on amène nos vies dans le lieu secret, par la prière, par le jeûne, que Dieu, il va voir ce qui se passe. Et on n'a pas besoin d'annoncer ça à droite, à gauche. C'est le lieu secret, c'est mon Père, c'est moi. Et ça se fait comme ça. Alors, le jeûne et la prière sont notre point de départ pour chercher Dieu. Mais pas seulement, et je veux vraiment souligner ça, pas seulement en priant et en jeûnant pour nous-mêmes. Parce qu'ils sont aussi un moyen important de se tourner vers les besoins des autres. Il est impossible de souligner combien ça compte aux yeux de Dieu. Vous savez, il y a une histoire en Zacharie, ça se prononce comme ça? Zacharie? En Zacharie 7, nous lisons que les Israélites, donc ils sont déportés aux quatre coins de l'Empire babylonien après la destruction de Jérusalem. Et pendant 70 ans, ce peuple-là, ils ont jeûné 2 mois sur l'année. Je pense que c'est le 5e et le 7e mois, ils jeûnaient. Et au moment où il y a quelques Juifs qui rentrent à Jérusalem pour recommencer la construction, la reconstruction plutôt du temple et des murs, ces déportés, ils envoient une délégation aux prêtres pour demander à Dieu, est-ce qu'il faut que nous continuions à jeûner? Maintenant que quelque chose a changé, est-ce que le jeûne, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue ces 2 mois sur l'année? Et voici ce que Dieu leur dit. Alors, je vais synthétiser parce que le passage est long. Mais en fait, Dieu leur dit, ça fait beaucoup de repas ratés pour rien. Ça, c'est en bref ce qu'il dit. Car vous n'avez jeûné, et voici ce qu'il dit. Il dit, vous n'avez jeûné que pour vous-même. Vous avez été égoïste dans votre jeûne et votre prière. Vous êtes obsédé par vous-même et vos besoins et ce que vous voulez. Vous ne vous préoccupez pas du tout des besoins des autres. Alors, honnêtement, pendant tout ce temps, ces 70 ans, les deux mois sur l'année, je ne vous écoutais pas. Vous imaginez? Ça fait 70 ans. Ça fait, je ne sais pas combien de mois ça fait, mais beaucoup de repas ratés. Et Dieu dit, en fait, vous êtes tellement tourné vers vous-même que franchement, j'ai arrêté d'écouter à un moment donné. Parce que vous êtes égoïste, d'accord? Donc, prière et jeûne, c'est bien. Prière et jeûne pour les autres, c'est encore mieux. OK? Bien sûr, nous apportons nos propres vies devant Dieu, mais Dieu veut qu'on soit tourné vers les autres. Et la prière et le jeûne, vous savez, David, dans le psaume 35, je pense, il explique qu'il y avait ses ennemis, les gens qui étaient contre lui. Il dit, mais même quand ils étaient malades, j'ai jeûné pour eux. Donc ça, c'est une façon non seulement de faire du bien à vos ennemis, mais jeûner pour quelqu'un d'autre. Donc ça fait 2 points de plus pour la récompense. Mais il faut qu'on comprenne que le jeûne, ce n'est pas juste pour moi. Et ce que je veux, et mes désirs, et ma vision, et le jeûne, c'est quelque chose qui est censé aussi être tourné vers les autres et les besoins des autres. Donc, n'hésitez pas à jeûner. Quand vous voyez les besoins dans la vie des autres, n'hésitez pas à jeûner pour les autres. Parce que Dieu le voit, il dit, ça c'est bien, c'est noté. C'est noté, c'est récompensé. Et ça m'amène à mon deuxième point. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, nous le trouvons parfois dans les lieux et dans les formes un peu inattendues. Jésus, il parle dans ce prochain passage du jour du jugement. C'est un passage que nous connaissons très bien. Je ne vais rien vous apprendre dans ce passage-là en le lisant. Mais on va le lire ensemble et puis on va retirer quelques points. Alors, c'est Matthieu 25. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Donc, le roi, c'est Jésus, il a fait le tri au jour du jugement. Il dit, venez, vous, comme mon Père béni, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger. Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Alors, Dieu récompense la démonstration pratique de notre compassion pour les plus vulnérables et les plus souffrants dans notre communauté. Parce que là, il parle de mes frères. Il est en train de parler des personnes de la communauté, de l'assemblée, de l'église. Okay? Donc, la compassion pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, en les habillant, en les nourrissant, en les accueillant, en les rendant visite, en communiquant notre sympathie et notre présence au milieu des circonstances qui sont difficiles. Tout cela, c'est considéré par Dieu comme si on le faisait pour lui. Donc, ça veut dire, très pratiquement, vous cherchez Dieu, vous cherchez les gens qui sont vulnérables et souffrants dans votre communauté. Parce que là, c'est garanti, vous allez trouver Dieu. Parce que Dieu dit, tu fais ça pour cette personne-là, tu l'as fait pour moi, j'étais là. Et tu l'as fait, tu as réagi comme il fallait réagir. Et méfiez-vous des apparences aussi. On peut être bien habillé, on peut être bien nourri, mais on a fort besoin d'un accueil, parce qu'on est étranger. Je sais que Paul et moi, quand nous sommes arrivés ici, on était très, très contents d'être accueillis par les personnes qui ne nous connaissaient pas du tout, mais qui étaient prêtes à ouvrir leur maison pour passer une soirée très compliquée à communiquer dans un français un peu approximatif. Mais on avait besoin de cet accueil. On avait vraiment besoin. Et Dieu l'a vu. Et je sais que, par exemple, Jérémie et Monica, qui étaient parmi les premiers à nous accueillir, il y a une récompense pour eux à cause de leur accueil de nous, de nous-mêmes. Okay? C'est très concret, c'est très pratique que Dieu, il n'est pas compliqué dans ce domaine-là. Et donc, on peut se sentir étranger, on peut se sentir à l'écart, tout simplement, et être en besoin d'accueil. On n'est pas forcément dans notre pays, mais peut-être on ne connaît pas beaucoup de monde et on a besoin d'un accueil. Peut-être on a un fort besoin de mots d'encouragement ou d'aide pratique quand on se trouve dans les circonstances difficiles. Okay? Quand on répond à ces besoins-là, Dieu dit, bah, vous avez fait pour moi et je le récompense. Et Jésus, ça c'est pour la communauté, et Jésus il va encore plus loin. En Luc 14. Donc Jésus, il est invité chez un pharisien. Ils sont en train de manger. Et voici Jésus dit à la personne qu'il a invité. Il dit, quand tu donnes un grand repas, à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta famille, ni des voisins riches, si vous avez des voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour et ils te rendront ce que tu as fait pour eux. C'est-à-dire, il y a un contrepartie. Moi, je t'invite, tu m'invites, et puis voilà, c'est kiff-kiff, et tout va bien. Okay? Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite des pauvres, des infirmes, des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. Ok, alors juste pour confirmer quelque chose, Dieu n'est pas du tout contre les repas sympas en famille ou entre amis. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Mais ce n'est pas ce type d'hospitalité qu'il récompense. On est en train de parler de quelque chose de très particulier ici. Ouvrons nos maisons aux personnes qui ne sont pas en mesure de nous inviter en retour. Ça, c'est le principe qu'il est en train de montrer ici. En Hébreu 13, on a une consigne très claire de la part de Paul. Pas forcément Paul, si c'est Hébreu. On ne sait pas qui l'a écrit. Donc, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Okay? Alors, je ne sais pas si j'ai déjà reçu des anges chez moi. C'est possible, je ne pense pas à ce jour, mais qui sait pour l'avenir. Mais ce passage fait référence à Abraham, qui a préparé un repas pour les visiteurs inattendus. Alors lui, il avait un veau sous la main qu'il pouvait préparer. En général, c'est vrai que si vous passez chez nous le midi et on vous invite à rester, c'est pas le veau que vous allez manger, c'est fromage, pain, beurre de cacahuète et une bonne tasse de thé, parce qu'on a gardé nos bonnes habitudes alimentaires britanniques le midi. Mais il faut savoir que l'hospitalité, ce n'est pas une émission de Top Chef, ce n'est pas une compétition. D'accord ? On fait avec les moyens qu'on a. C'est le cœur qui compte dans l'hospitalité. L'objectif, ce n'est pas de faire encore mieux que la précédente. C'est le fait d'ouvrir l'espace de ton cœur et ta maison aux personnes qui peuvent être accueillies. Et Dieu, il regarde ce qu'on fait et il récompense ce comportement. Alors, pour ceux qui sont en dehors de notre communauté. Non, avant de dire ça, je veux juste souligner le fait que Dieu veut que nous nous ouvrions les yeux sur ce qui se passe dans notre communauté. Souvent, on a nos petits groupes d'amis vers qui on va aller le plus souvent. Mais on a vraiment besoin, si on veut respecter le cœur de Dieu et faire les choses que Dieu veut qu'on fasse, on a besoin d'ouvrir les yeux pour aller vers les gens que peut-être normalement on ne côtoie pas. Dieu ne veut pas que ses enfants soient égoïstes. Il ne veut pas. Quel parent veut un enfant égoïste? Non. Un parent veut que son enfant soit gentil et tourné vers les autres. Et notre père, c'est exactement le même type de père. Et c'est quand on agit de cette manière que Dieu récompense ce comportement. Dieu dit, c'est important à mes yeux. Alors réagissez. Réagissez à ce que je vous dis. Ouvrez les yeux sur votre communauté. Qui est là? Regardez, prenez un instant, juste regardez autour de vous. J'imagine qu'il n'y a personne ici, peut-être je me trompe, qui connaît tout le monde. Alors le défi dans les semaines à venir, c'est de se voir un peu plus, d'ouvrir les yeux un peu plus, demander quelques prénoms dont on n'est pas au courant déjà. Et si vous êtes comme certains que je connais, vous notez ça sur un papier, comme ça vous n'oubliez pas. Et vous ne soyez pas, il ne faut surtout pas être offensé quand quelqu'un dit « Je suis désolée, je sais, la semaine dernière, j'ai demandé votre prénom et je ne me souviens plus. » Mais à chaque fois que je pose la question, en fait, il y a plus de chances que ça reste. D'accord ? Il ne faut pas qu'on soit vite offensé par ça. Mais ça, c'est pour notre communauté. Mais en dehors de notre communauté, je vais faire un petit spot publicité ici. Parce que cet été, entre le 21 et le 24 août, nous préparons une fête. C'est l'occasion pour plusieurs églises de la métropole d'inviter tout le monde et n'importe qui à venir accepter l'hospitalité au nom de Jésus. Et c'est quelque chose, ça ne se passe pas ici, ça se passe en ville. Mais qu'est-ce qu'on va inviter les gens à faire? À venir manger, à faire des activités ludiques pour les enfants. Écouter la musique, parler aux gens pour se sentir accueillis. Nous recevons des personnes de tous les milieux dans les barbecues. Il y aura sûrement les pauvres, les infirmes, les sans-abri, parce qu'on le voit chaque année. Mais il y a aussi les bien habillés, les touristes, les voyageurs qui apprécient l'accueil et la possibilité de parler. Et c'est marrant le nombre de fois où on finit à prier avec ces gens-là parce qu'ils avaient besoin de se décharger. Et je parle bien sûr des barbecues géants. Et c'est de l'hospitalité proposée en sachant que nos invités ne peuvent pas nous le rendre. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui n'apporteront pas une récompense sur terre. Mais Dieu ne néglige pas nos efforts et il promet de nous récompenser à la résurrection des justes pour notre hospitalité dans son nom. Alors, moi j'ai simplement un défi pour vous. Si vous ne savez pas où commencer avec ces histoires d'hospitalité, des gens, commencez avec les barbecues. C'est un cadre qui est déjà là, déjà fixe. C'est très facile de s'intégrer dans l'équipe. Vous allez avoir l'occasion d'offrir de l'hospitalité au nom de Jésus. Et Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu dit, ce genre de comportement-là, c'est noté. C'est noté. D'accord? Donc, si vous voulez une récompense pour 4 jours cet été, là, c'est une façon très, très facile, très concrète d'avancer avec ce que Dieu veut pour nous. Donc, ce sont les deux domaines que je voulais toucher aujourd'hui. Pendant les années, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui me demandent comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie. C'est souvent une question qu'on a en tête. Ça peut sembler difficile à discerner. Mais j'ai une réponse très facile pour vous, au moins de façon générale. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, prenez note des actes que Dieu récompense et commencez là. Parce qu'il n'y a pas plus clair dans la Bible. Si Dieu dit « je récompense ça », ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que supportez les insultes et l'exclusion à cause de votre foi. Restez intègre et juste et honnête. Faites du bien à ceux qui sont contre vous. Persévérez dans votre service malgré les difficultés éventuelles. Faites un travail de qualité pour votre employeur. Restez accrochés à la vérité, malgré la pression culturelle de faire autrement. Soyez généreux avec votre argent, répondant aux besoins que vous voyez autour de vous. Et mettez toute votre vie à la vie des autres, entre les mains de Dieu dans la prière et le jeûne pour reconnaître votre propre impuissance et, la toute-puissance de Dieu. Et ouvrez vos cœurs hospitaliers à ceux qui sont en dehors de votre cercle d'amis actuel. Simplement pour bénir avec un accueil chaleureux les étrangers parmi nous, par exemple, sans attente d'un retour de leur part. Ça, c'est très important. On ne fait pas pour recevoir. Si vous savez que quelqu'un dans l'église est malade ou dans une situation difficile, prenez de leurs nouvelles. Envoyez un petit texto, ça va? Parce que parfois, on a juste besoin de savoir que les gens sont au courant. On a juste besoin de se sentir un tout petit peu soutenu. Oui, il y a quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe dans ma vie en ce moment et je me sens moins seule à cause de cela. Montrez que vous êtes là. Si vous pouvez apporter une aide pratique, faites-le. Parce que Dieu dit, pour toutes ces choses-là, c'est noté. C'est noté. Et je veux terminer avec ceci. Mes étudiants, je reviens avec mes étudiants, ils sont parfois tellement focalisés sur le fait qu'un travail est noté, qu'ils ne saisissent pas ce que le travail en soi est en train de leur apporter. Qu'après ce travail, peut-être ils auront plus de vocabulaire spécialisé, ou peut-être ils auront une meilleure maîtrise d'une méthodologie, ou peut-être ils auront une plus grande aisance à l'oral. Mais ils sont tellement fixés sur la note, que bon, ça passe un peu à la trappe. Mais en tant qu'enseignant, ce qui me réjouit le cœur, c'est de voir un étudiant ou un groupe d'étudiants qui oublie temporairement que c'est noté parce qu'il découvre lui-même l'intérêt du travail. L'ambiance de classe s'est transformée quand ça se passe. L'engagement, c'est autre chose. Quand quelqu'un s'implique dans un travail parce que tout d'un coup, ah ouais, d'accord, c'est bien. Si je fais ça, j'aurai ça. Si je teste de cette manière, j'aurai ce résultat-là. Et il y a plus d'engagement et il y a de l'enthousiasme et ça se communique. Ça passe d'étudiant en étudiant. Surtout quand il y a un étudiant dans le groupe qui tout d'un coup, ça, il y a un déclic. Et je pense que Dieu, il ressent la même chose. Il nous promet une récompense pour certains actes le jour où nous serons jugés. C'est à l'avenir. Mais ce qu'il désire, surtout, dès maintenant, est de nous voir formés et transformés pour lui ressembler de plus en plus. Parce que vous savez, Dieu, il est tourné vers les autres. Dieu, il est juste et intègre. Il est généreux, il est libéral. Son travail est toujours un travail de qualité. Il a fait dans le passé, il fait encore du bien à ceux qui sont contre lui. Il nous a ouvert son cœur lorsque nous étions étrangers et ses ennemis. Il nous invite à manger à sa table. On a fait ça ce matin. C'est une invitation à la table du Seigneur. C'est vous étiez mes ennemis, mais voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que vous puissiez venir manger chez moi. Et c'est ce qu'on fait quand on fait la Sainte Cène. Dieu nous invite à sa table. Et lorsque nous cherchons Dieu, s'il y a un encouragement que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que ne ce soit pas simplement pour recevoir une récompense, même si c'est motivant, même si ça nous rappelle parfois là où il faut concentrer nos énergies. Mais comprenons le cœur de Dieu pour nous, dès maintenant. Lorsque nous cherchons Dieu, pour laquelle il y a une récompense, je vous rappelle, nous savons, comment savoir si tu as trouvé Dieu? On sait si on a trouvé Dieu parce qu'on commence à lui ressembler de plus en plus. Parce que quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu commences à lui ressembler. Et c'est ce que, Dieu, c'est ce que tu, ce, notre Père veut pour les enfants, c'est qu'on lui ressemble. Et oui, on a l'encouragement, la motivation des récompenses. Mais comprenons le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on soit comme lui. Dans sa manière de faire des choses, sa manière de voir les choses, sa manière d'agir, de reconnaître les besoins des autres. Et ça réjouit son cœur. Et je pense que ça, c'est mon but, en tout cas. C'est notre but parce que nous l'aimons. Alors, ça vous parle? Alors, j'aimerais vous inviter juste à fermer les yeux. Seigneur, tu dis que en te cherchant, il y a une récompense. Seigneur, je sais que pour ma vie, je veux que cette récompense soit que je te ressemble de plus en plus. Et Seigneur, je vois tous ces domaines de ma vie. Je suis peut-être meilleure dans d'autres domaines que d'autres. Mais Seigneur, je sais que c'est toute ma personne que tu veux former et transformer pour ressembler à toi. Donc Seigneur, je prie pour chaque personne ici ce matin, que donne peut-être toute la liste que j'ai citée, qui est quelque chose qui fait tilt, qui dit, oui, là c'est quelque chose où, même si je commence à travailler avec une idée de récompense, en fait, je veux simplement ressembler à mon Père. Donc Seigneur, parle-nous dans la semaine à venir. Peut-être pour notre vie de prière, montre-nous les domaines de notre vie qu'on n'a pas mis pleinement sous ta main, où on n'a pas su reconnaître jusqu'à là notre manque de moyens, afin qu'on puisse t'inviter dans ta toute puissance de venir faire ce que tu veux faire dans ces domaines de notre vie. Seigneur, aide-nous avec ce cœur hospitalier. Tourner vers les autres, les yeux ouverts dans notre communauté pour voir les besoins, pour pouvoir prendre le temps. Et parfois, c'est 2 minutes qu'il faut pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Mais Seigneur, qu'on puisse être des enfants qui ressemblent à toi et pas les enfants égoïstes. Tourner vers nous-mêmes, préoccupés par nos propres besoins. Mais Seigneur, avec ton cœur pour notre assemblée et pour le monde autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.